Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Voix d'Autrement, une émission réalisée par l'association Quoi de Neuf grâce au soutien de la Fondation pour le lien social de la Croix-Rouge.
Les Voix d'Autrement, moi je vois V-O-I-E-S.
Ah, toi tu vois Les Voix d'Autrement?
Les voix, la façon de faire les choses autrement.
D'accord, un cheminement.
Cheminement autre.
On dit que la voix qui parle est le plus court chemin d'un homme à un autre.
Puis on est autrement, on est tous autrement de toute façon.
Et quand les reporters sans œillères prennent la parole et qu'ils se racontent, l'histoire n'est plus la même. Et les chemins qui les mènent sont des voies d'autrement.
Il y a un peu plus d'un an, un an et demi même, on avait été sollicité donc par Christophe Blangéro qui travaillait à cette époque-là pour le théâtre des samouraïs à Mende et qui participait à la mise en scène d'un livre d'Alexandre Jolien qui s'appelle Le métier d'homme. Et dans le cadre de ce travail, Christophe s'est tourné vers nous pour essayer d'élargir entre guillemets le discours, l'écoute peut-être déjà d'Alexandre Jolien, et puis de permettre aux gens qui transitent par Quoi de Neuf, d'une façon ou d'une autre, de s'exprimer, de réagir aux livres, aux intentions, à la philosophie, on va dire, d'Alexandre Jolien. Donc à cette époque-là, on a mis en place quelques rencontres qui devaient être finalement ponctuelles.
Ouais, rencontres informelles autour d'un goûter, souvent. Ouais.
De courte durée, et puis finalement, ça a donné lieu à deux émissions montée donc par Christophe toujours et dans lesquelles les gens qui passent par Quoi de Neuf d'une façon ou d'une autre ont pu s'exprimer sur les thématiques développées par Alexandre Jolien. Et puis en fait les 5 ou 6 personnes qui ont participé activement à cette première étape ont souhaité renouveler l'opération autour d'un travail radiophonique. Donc Christophe était partant, on a monté un petit projet, on a sollicité un financement auprès de la Fondation pour le lien social de la Croix-Rouge française. Et on a obtenu ce financement et le but du jeu, c'était d'élaborer avec les personnes 4 émissions qui seraient diffusées donc mois par mois sur vos ondes. Voilà, donc en partenariat avec vous, bien entendu.
Ouais, c'est à ce moment-là que je vous ai sollicité et qu'on a emprunté un micro que vous nous avez gracieusement prêté pendant 6 mois. Et ce micro, on l'a laissé dans les locaux de Quoi de Neuf. Voilà. Pour moi, la radio, c'est improvisé tout en dialoguant. Et donc, on a petit à petit, chacun a pris le micro. Donc, il y a Jérémy à côté de moi qui, lui, l'a pris pour 9h30. On en parlait hors micro. Là, il s'est enregistré 9h30. D'autres qui n'ont pas pris le micro, que je suis allé voir, parce que le rapport au micro n'est pas tout à fait le même. Et donc, on a collecté comme ça des voix, des personnes, des rencontres, des chemins singuliers, des chemins particuliers, comme dirait notre ami Bernard.
Certains ont utilisé le micro pour se mettre en position d'enquêteur, en quelque sorte.
Et voilà, aussi, il y a ceux qui ont fait leur petite enquête, comme Abel, je pense à Abel. Et ensuite, ça faisait une espèce d'ensemble polyphonique qu'il a fallu faire sonner ensemble, faire chanter ensemble. Et il y avait des thématiques qui se dégageaient, mais en même temps, je trouvais bête de trouver des thématiques. Pour moi, la vie est sans pourquoi. Hein, la vie se tient dans l'invisible souvent et qu'il n'y a pas de raison de faire des liens tout le temps. Et je voulais mélanger en quelque sorte des personnes qui se sont rencontrées autour d'un micro, qui ont pu parler ensemble. Alors, Jérémy en parlera parce que lui, il l'a vécu de l'intérieur. Moi, je l'ai vécu comme quelqu'un qui amène quelque chose. On a amené un micro. On s'est rendu compte que on a pu collecter petit à petit 30 heures de rush. Quoi.
Oh, 30 voilà. Heures de rush, ouais, ouais. T'as monté une émission d'une heure avec 30 heures de rush.
Non, ensuite, voilà, on était parti pour 4 émissions, donc j'en ai fait déjà 2, je peux en faire 4 faciles et je vais en faire 6,5 là pour l'instant et j'attends que Jérémy emprunte le micro et là je pourrai en faire 9 quoi. Et voilà, mais voilà, l'important donc de tout ça, voilà, donc je disais il faut improviser en dialoguant et c'est vraiment le pari de la, je trouve de la radio, c'est ce qui est magnifique à la radio et heureusement qu'il demeure des lieux comme la radio où la langue chante, la langue murmure.
Ouais, et fourche aussi des fois.
Ouais, ou la voix affleure des fois comme une caresse, ou s'impose dans son innocence. Voilà, c'est la radio. Et c'est ce qui est magnifique dans le travail qui a été fait, c'est que chacun s'est emparé de ça comme un outil d'expression à part entière. Et voilà, ça donne quelque chose, un ovni. Voilà, on peut appeler ça un ovni radiophonique. Il n'y a pas de choses à y apprendre, si ce n'est à rencontrer. En fait, moi, je pense que ce qui importe, ce n'est pas vraiment la vie, c'est le vivant qui importe. C'est les hommes qui vivent à côté de nous. Et voilà, leur donner la parole me semblait être essentiel. Voilà.
Alors, donnons donc la parole à Jérémy.
Pour présenter un peu les choses du point de vue extérieur, c'est-à-dire en n'étant ni l'animateur, ni le technicien, en fin de compte, ce que j'ai trouvé intéressant dans ces émissions, dans le montage, dès le départ, c'est d'avoir cette possibilité finalement d'expression totalement libre, où il n'y avait aucune contrainte si ce n'est exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire. Ça, c'était les mots de Christophe, je crois, sur le départ, donc la présentation du projet il y a 6 mois déjà. Et ben, il s'avère qu'au final, c'est un pari réussi parce qu'on s'est retrouvé pour créer un ovni, c'est pas compliqué, il faut des extraterrestres, quoi. Et là, on s'est retrouvé autour d'une table à autant de personnes qui avons en commun une certaine singularité, c'est-à-dire on vit dans un monde qui est de plus en plus uniforme et uniformisé. Donc après, c'est pas non plus de la responsabilité des gens d'être dans cet état d'esprit-là. Et avec les voix d'autrement, on a réussi justement à planter cet ovni finalement, dans le sens où ça reste sur des sujets contextuels, voire notamment sur tout ce qui touche à l'environnement, l'écologie, etc. Donc des sujets qui sont importants en plus à discuter aujourd'hui à notre époque, mais sous une approche très différente. Et ça, c'est génial, quoi.
Une approche autrement, quoi. C'est d'où le pourquoi alors ce titre d'émission, Les Voix d'autrement.
C'est venu de Jérémy, d'ailleurs, qui hésitait entre les voix de Lozère et les gens d'autrement. Je sais pas, un truc comme
quelque
ça.
Quelque chose comme ça. Ça. Ouais, t'as fait le mix des deux.
Et j'ai fait le mix des deux, les voix d'autrement. Alors, c'est pas les voix d'outre-tombe, hein, ni les mémoires, ni d'outre-mer. C'est d'autrement. Voilà. Le pourquoi du titre, donc il y a pas de pourquoi, encore une fois. Pourquoi chercher des pourquoi, hein. C'est surtout les comment qui nous intéressent, les qui, quoi, les autres, quoi. Enfin, moi, les pourquoi, ça m'intéresse pas. Ce qui était important, c'est de se dire aussi que j'entendais tout à l'heure Yann. Il y a le feu autour de nous, en fait, quand même. Hein. Il y a le feu autour de nous. Et on joue tous avec le feu. Et on voudrait nous transformer en pompiers, des fois. Et je pense qu'en fait, il faut laisser parler le feu. Je pense qu'apprendre à laisser parler le feu, c'est notre travail, en fait. Et pour essayer de se demander qu'est-ce qui se dit dans ce feu-là, en fait, pour se rendre maître aussi du feu, hein, pour pas se laisser dévorer par le feu. Je pense que le feu, c'est quelque chose à faire parler, le feu intérieur, évidemment le feu sacré. On pourrait parler de Jérémy dans toutes les émissions, par exemple, des voix d'autrement. Il y a la voix de Jérémy qui pratique une forme de chamanisme solitaire qui est très étrange, qui est très étonnant, et sur lequel on a mis de la musique, et ça donne des parenthèses, des intermèdes, d'ailleurs, d'autrement, de nulle part, mais certainement de quelque part pour Jérémy. Et ça, voilà, c'est ces voyages extraterrestres en OVNI qu'on propose, en fait.
Pour toi, Jérémy, c'était une première expérience
Non,
d'accord.
Non, j'en avais fait déjà, pareil, de façon amateur, mais un tout petit truc, il y a une vingtaine d'années, avec une radio amateur qui était sur sa fin, et où tout simplement, on nous avait laissé l'accès pendant 2 années. Tous les samedis, on avait une tranche horaire d'une heure avant qu'ils finissent de démonter et de tout arrêter. Et j'ai trouvé ça assez marrant comme coïncidence, parce que finalement, au mois de janvier, fin décembre plutôt, quand je suis arrivé à Quadneuf pour la première fois, c'était pour toute autre chose. Et bah, c'est vrai que j'ai sauté sur l'occasion, quoi, de participer comme ça à cette émission, dans le projet aussi, comme l'a présenté Christophe, parce qu'il a vraiment fait partager son rêve. En tout cas, la mayonnaise, elle a pris avec moi, où j'ai vraiment eu envie de participer, de m'investir là-dedans pour porter ce projet-là, ben, comme on l'a fait, donc jusqu'à terme, en espérant que ça fasse des petits par la suite, quoi, hein. Que ça ensemence, et puis profiter justement de ces points de vue qui sont suffisamment changés et changeants pour éveiller les consciences, ou simplement permettre aux gens de s'interroger. L'idée, c'est, en tout cas dans mes interventions, je ne suis jamais dans une dénonciation de quoi que ce soit, parce qu'on pourrait passer une vie entière chacun, dans des domaines divers et variés, à dénoncer des choses. Alors qu'il y a tellement de choses justement à présenter pour les améliorer, et où là, ça reste un chemin positif. Et je crois que la volonté de fond de tout le monde, autant Cécile que Christophe, que tous les autres participants, c'est vraiment justement de porter quelque chose de positif. On n'est pas dans de l'attaque, on n'est pas dans de l'agression, et pourtant, individuellement, beaucoup pourraient se permettre légitimement d'être dans des situations d'attaque ou autre, quoi. Mais non, on a décidé de faire les choses autrement.
Tout en laissant parler le feu aussi.
C'est-à-dire
parce qu'il y a quand même des libertaires aussi. Je pense à Christian, là, avec qui aussi j'ai fait une série d'entretiens. Voilà, là aussi, il y a un personnage qui est vraiment vissé à la liberté, mais vraiment, c'est son harlais, la liberté, quoi. Et donc, voilà, il y a aussi ce que j'ai aimé, en fait, moi, dans la rencontre de ces gens, c'est une forme de feu. Donc, j'invite pas à la pyromanie, hein, j'invite pas à mettre le feu. J'invite plutôt à devenir pyrographe, si on peut écrire, faire parler le feu. Alors quand on fait parler le feu au lieu de l'éteindre, on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'un retour de flamme, voire d'un buisson ardent. Et donc ça, c'est aussi des choses qui sont belles à entendre. Alors, c'est vrai que chacun aussi a pris sa part de mots. Ça, c'est, j'y ai peut-être contribué au départ, mais je pense qu'ensuite, c'est chacun qui a pris sa part de mots. Aider à ce que ça soit audible ensuite sur les ondes, ça c'était un autre pari. Avec vous, on peut tout faire, donc c'est absolument génial. Moi, Radio Barthas, pour moi, c'est une radio. Je viens, je propose, on me dit oui, voilà. Et c'est quand même assez extraordinaire comme ouverture vers les extraterrestres. Et puis il y a Cécile aussi qui est quelqu'un qui a eu un rôle fondamental, c'est-à-dire c'est moi j'étais malade aussi pendant le début d'année, donc elle a joué un relais formidable auprès de chacun, en maintenant la confiance, en autorisant tout. C'est une immense autorisation que de prendre un micro, en fait, hein, c'est sûr. Il s'agit de parler ensuite. Alors il y en a qui peuvent tenir des heures, mais c'est quand même quelque chose qui est pas évident, et que ce soit accompagné tout en douceur, tout en empathie, tout en intuition, tout en compréhension, ça, Cécile a fait ce travail formidablement en tant que en tant que travailleuse sociale peut-être, mais aussi en tant que avant tout humain. Et voilà, je tenais à la remercier. Je sais qu'elle va rougir, on la voit pas là, mais je tenais à remercier aussi cette action. Et puis voilà, quoi de neuf aussi qui s'est inscrit du coup dans cet atelier là et qui va se pérenniser, j'ai l'impression, et c'est tant mieux.
J'ai quand même envie de rajouter aussi que je suis pas si surprise de ça, du résultat. On dit c'est un ovni, mais au final, ce que je vois, enfin, je suis vraiment très contente de tous ces gens qu'on peut rencontrer dans Quoi de Neuf ou autour de Quoi de Neuf, et dont on dit pas toujours du bien. Et en fait, quand on les écoute aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont brillants, lumineux, intéressants. Et ça, je l'ai toujours su, mais du coup, l'émission de radio permet de mettre ça en valeur. Et c'est un peu l'essence de notre travail, et donc on est content, voilà. Et puis effectivement, pour ce qui est de l'avenir, les gens ont envie de continuer.
Si j'ai bien compris, tous les enregistrements sont déjà faits, maintenant il te reste le travail de montage, ou est-ce qu'il y a encore des enregistrements qui sont en cours?
C'est possible, par exemple, le micro étant toujours à Quoi de Neuf, il est possible que je récupère à chaque fois la carte SD et j'ai un ovni.
Et du coup, en fait...
C'est assez extraordinaire, parce que des fois, je ne rencontre pas les personnes que j'écoute. Alors, c'est un côté...
C'est un boulot énorme que tu as fait, quoi, de partir.
Ouais, mais c'est un boulot tellement passionnant, parce que c'est une plongée dans l'humain. Hein. Quand je dis vraiment que la voix humaine, la parole humaine, a des capacités de libération émotionnelle incroyables, moi, elle agit sûrement, en tout cas, comme un baume, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'ailleurs, et que j'essaye d'écouter au mieux.
En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que des retours qu'on a eus par rapport à l'émission, c'était à chaque fois l'étonnement, la surprise, et les gens étaient vraiment emballés après l'avoir écouté. Et du coup, ça a été comment pour vous qui avez découvert l'émission une fois montée? Parce qu'il y a eu tous ces enregistrements, et puis ça change tout, d'en faire une heure, de l'organiser, de mettre les musiques, etc. Comment tu as réagi en écoutant cette émission, Jérémy?
Ben, à part sur une petite partie de montage me concernant, parce qu'on l'a fait ensemble avec Christophe, donc là où je n'ai pas eu la surprise... de l'écoute complète, montage, tout bouclé, etc. Mais malgré tout, déjà pendant la construction du montage par rapport à l'éventail de possibilités que le son permet de faire aujourd'hui, quoi. J'ai trouvé ça stupéfiant. Et c'est vrai que, pour reprendre les mots de Christophe, et là, il a réussi son pari, je pense, à 100%. Il me disait, un bon montage, c'est la personne initiale qui a parlé va être surprise, va avoir une bonne surprise. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous eu ce sentiment-là suite à l'écoute, la réécoute en tout cas de la première émission avant qu'elle passe. Et pour le côté aussi autour de ça, c'est vrai que par rapport au compliment que faisait Christophe par rapport à Cécile, ben moi je le fais pour les deux. Parce qu'en matière de logistique, sur le plan à tout niveau, Cécile, elle a super bien fédéré les choses, et Christophe aussi, parce que le boulot de Titan que ça représentait dans l'ombre, pour les uns comme pour le, enfin l'un comme l'une, c'est énorme, quoi. Et moi, je trouve ça génial d'avoir fait le choix aussi pour eux deux, d'offrir autant de leur temps, finalement, pour permettre la réalisation de cette émission, où j'espère juste continuer d'en rester un élément pour continuer de le porter, permettre effectivement à d'autres personnes, dès la rentrée, d'y participer, de s'ajouter, et puis de faire une planète d'extraterrestres, quoi, tant qu'à y être.
Oui, et ensuite, moi, je répondrai à Jérémy que j'ai une passion indécrottable, en fait, pour les minorisés, en fait. Je suis né minorisé, on m'a minorisé, et le minorisé m'attire, parce que certains sont sur des chemins de précarité, peut-être, mais il y a en eux un sens du rebond, de la spiritualité aussi, un art de la méditation, de la contemplation, qui est vraiment une chose aussi qui est utile, en fait. Je pense à Tchouk, là, qui n'est pas là, mais qui est un fiéfé promeneur. Je pense à Stéphane, qui est dans les mains de la psychiatrie, le pauvre, mais qui réussit grâce à des résistances florales, on va dire, dans son cas, des résistances vraiment florales et même minérales, se construit un petit monde à lui, de résistance, de spiritualité, de méditation. Et c'est vraiment ça aussi qui est très très beau, en fait, je pense, avec des publics qui, à première vue, sont marginaux, peut-être, mais qui renferment en eux une part d'universalité, moi, qui me touche profondément, qui m'émeut. Et voilà, monter ça, c'est tout simplement, c'est comme élever une pyramide, en quelque sorte, à chacun. Non pas parce que je sais aussi que les minorisés cultivent une forme d'auto-sabotage, dans certains cas, d'invalidation personnelle aussi. C'est-à-dire qu'on leur donne pas assez la parole, peut-être aussi, ils l'apprennent pas assez. Je sais pas, mais en tout cas, faire naître la confiance chez quelqu'un devant un micro avec un stylo, moi c'est mon métier, et c'est quelque chose, je trouve, je suis un jardinier, en fait, je vois des fleurs s'ouvrir, et ensuite je sais qu'une fois qu'elles sont ouvertes, elles grandissent toutes seules, elles n'ont plus besoin de moi, voilà. Et ça, c'est peut-être la plus belle, voilà. Moi, mon rêve, ce serait que l'émission puisse continuer sans moi, en fait, aussi. Voilà, ça, pour moi, ce serait le chef-d'œuvre du jardinier. Ce qui est super aussi, c'est que j'ai pu aller chez eux. Voilà. Jérémy, un jour, il m'a reçu, il m'a fait des frites. Il m'a fait des super frites. Et il m'a fait découvrir tous ses dessins. Et j'ai découvert aussi sa passion pour les bâtons. Donc j'ai vraiment découvert un univers, en fait. Et j'ai découvert autour de l'univers, non seulement des rituels, une forme d'éthique, une forme de spiritualité vraiment profonde. Et moi, ça m'a touché. Voilà, c'est... Ensuite, voilà, c'est la force de l'humanité que de nous émouvoir. Enfin, voilà, on n'échappe pas à la splendeur de la vie, en fait, en vérité.
T'as pas 100 balles, je suis fils de riche. De mes parents, j'ai refusé le pognon. Je fais ma PA à l'hibernation. Je fais ma PA à l'hibernation. À l'extrême gauche, je suis censuré. Trop de place qu'ils disent, moi je peux jamais m'expliquer. Alors je suis obligé de faire une chanson. Obligé de faire une chanson. Le droit de réponse, pendant les mois, vous me l'avez refusé. Mais les cordes vocales, vous ne les avez pas encore coupées. Alors la chanson, vous allez l'écouter. Alors la chanson, vous allez l'écouter. Et si par hasard, quelque chose vous plaisait pas, bourrez-moi la gueule, ça m'étonnera pas. Montrez votre vrai visage, appelez les flics. Mais ici c'est vrai, c'est pas nécessaire. Tous ces braves gens, leur place ils l'ont payé pour venir écouter chanter. Je suis fils de pauvre, t'as pas 100 balles. Je suis fils de riche, de mes parents j'ai refusé le pognon. Je fais ma BA à l'hibernation. Je fais ma BA à l'hibernation. Ah, je suis militant, c'est épatant. Révolutionnaire, je suis un type épatant. Pendant des années, j'ai milité. À toutes les manifs, on a pu m'observer. Ah, fallait me voir avec mon petit mouchoir. Ah, fallait me voir avec mon petit mouchoir. Comité de lutte, comité de soutien, c'est moi qui ai tout organisé. Toutes les grèves, même celles de la faim, moi j'y ai participé. J'ai les cheveux blancs à 25 ans. J'ai les cheveux blancs à 25 ans. Je suis fils de pauvre, t'as pas 100 balles. Je suis fils de riche, de mes parents j'ai refusé le pognon. Je fais ma DA à l'hibernation, je fais ma BA à l'hibernation. Ah, je suis militant, c'est épatant. Révolutionnaire, je suis pour la culture populaire. La moquette chez moi, c'est pour mes chiens. La peinture offset, ça vient de mes copains. La discothèque, c'est pour emmerder tous les voisins. C'est chez Maspero que j'ai volé les beaux bouquins. Je suis militant, c'est épatant. Tous ceux qui ne pensent pas comme moi, il faut le fusiller. Ah, je suis militant, c'est épatant. Révolutionnaire et ancien combattant. Pendant des années, j'ai mal bouffé. Peu dormi et pas eu le temps de baiser. À ce rythme-là, on dure pas très longtemps. Après avoir séquestré quelques patrons, j'ai dû faire une petite dépression. Mais heureusement, mes parents sont occitans. L'Occident, c'est épatant. Révolutionnaire, je suis un type épatant. La bêtère, la belle maison, ça vient de mes parents. Bien que marxiste, léniniste, héritage, ça me gêne pas. Ça m'empêchera pas de continuer de gueuler. Marseillais, restez chez vous contre tous ces sales, sales étrangers qui viennent prendre nos terres, tous nos mètres carrés. À prix exorbitant, moi j'ai tout ça. Au prix occident. Je suis fils de pauvre, t'as pas 100 balles. Je suis fils de riche, de mes parents j'ai refusé le pognon. Je fais ma PA à libération. Je fais ma PA à libération.
Mon arrière-grand-mère venait de mourir, elle était là. Puis j'ai la petite mémé, super gentille, une petite bonne femme, toute tassée, là, qui tricotait toujours les chaussettes. Là. Et quand elle est décédée, quoi, elle était chez ma tante. Il y avait tout le monde qui passait, mais j'avais 9-10 ans. Quoi. À un moment, je ne sais pas si c'était l'ambiance de voir des gueules d'enterrement, puis je l'aimais bien, la grand-mère et tout. Mais à un moment, ça m'a pris. Je suis parti d'un fou rire, j'ai eu, qui m'a duré quand même quelques bonnes minutes et pas moyen de m'arrêter. Tu vois, je ne sais pas, il y avait un truc. Je ne trouvais pas ça si triste. Enfin, la mamée, moi, j'étais gamin et je.
Voir, c'était peut-être une réaction humoristique à un moment un peu lourd.
Oui, ouais. C'était alors que, bon, elle était partie, je ne sais plus, elle avait 90 et quelques, ça va, elle avait bien vécu, elle est morte doucement et tout. Et c'était, moi, je ne sais pas, c'était pour contrebalancer peut-être
cette espèce d'ambiance de deuil.
L'ambiance de deuil, là, qui était lourde. Et là, je t'ai dit, je me suis fait un fou rire bien grave.
Je n'ai pas un fou rire personnel à raconter, mais une fois, j'écoutais la radio, je ne sais plus quelle station, et il y avait eu des inondations catastrophiques en Roumanie. C'est en Roumanie ou Bulgarie, la rivière s'appelle le Prout. Et alors, bon, c'était un gars et une fille qui commentaient ça, ils se sont mis à rire, mais ils ne pouvaient plus s'arrêter. Alors que c'était un événement extrêmement gravissime.
La rivière
de quoi Prout, peut venir un fou rire. Ouais. Je ne me rappelle plus quelle station c'était, un truc genre France Inter ou...
Le débordement de la rivière
Prout. Débordement de le Prout et 25 morts. Ils se mettent à rire. Ils ne pouvaient plus s'arrêter. Ouais, mais c'était vraiment un truc.
Oui, comme quoi
un fou rire peut venir.
Le
tragicomique, c'est assez.
C'est vraiment le cas typique.
Le fou rire. Si, j'ai eu des fous rires, mais je ne peux même pas raconter pourquoi. C'est-à-dire que ça ne tient à pas grand-chose, quoi, souvent. Pas forcément sur des choses drôles, voilà, comme je disais tout à l'heure.
Comme tu dis, c'est un déversoir émotionnel.
Oui,
c'est le fou rire, en tout cas. C'est cathartique, quoi.
Il y avait une histoire de fou rire, si je t'ai peut-être raconté, là, chez les Tibétains.
Ah non, tu ne m'as pas raconté ça.
J'étais au centre tibétain en Dordogne, là. Il y avait une puja, donc les cérémonies. Il y avait toutes les disciples, toi. Il y avait une femme, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, elle était super sympa, elle avait tout largué, elle avait filé sa baraque, tout ça à ses enfants, et puis elle suivait de la main. Non, et puis j'étais derrière elle, et d'un seul coup, je la vois qui se retourne vers sa voisine, et puis qui devait être dans le style, c'est grenouille de bénitier, hein, que ce soit bouddhiste, catho ou protestant, c'est le même style. Puis elle la regarde, puis elle était quand même assez hypersensible, quoi. Elle était un peu perchée, mais bien, quoi. Elle regarde sa voisine et elle part d'un fou rire, mais elle la regarde, et moi je la vois qui la regarde et qui se met à se fendre la gueule, un fou rire monumental. Et alors là, la réaction de ses voisins et voisines, l'autre qui la regarde, et puis réprobation et tout, comment elle dérange la cérémonie, et paf, les lamas qui étaient en face, eux, ils se partent fou rire, clac, pillés en quatre. Et alors là, c'était la réaction des autres. Ah bah merde, si les lamas rigolent,
Il y a eu un fou rire généralisé.
Généralisé, bon, un peu forcé pour certains, mais ça, c'était pas mal comme ça.
Ouais, le fou rire, c'est vraiment différent du rire. Quand j'entends qu'il faudrait rire 3 minutes par jour pour être en bonne santé, personnellement, pourtant, j'aime bien blaguer, j'aime bien l'humour, mais j'en suis loin, quoi, de marrer 3 minutes par jour, quoi. Donc, le fou rire, en plus, ça fait du bien physiquement, un fou rire. Quand t'as terminé ta prise de rire, c'est libérateur, effectivement. Mais ça joue pas forcément sur le registre... de l'humour ou de la bonne blague.
Faut pas être forcément à jeun pour peut-être rire follement.
Ouais, en plus, c'est peut-être le décalage, l'inattendu.
Ouais, aussi, c'est ça.
Donne l'absurde, c'est
l'absurde. Ouais, l'absurde,
ouais. Coq-à-l'âne.
Quand le gars nous racontait qu'on y demandait pourquoi tu pars pas un stop à Vébron, un gars qui avait une mine un peu. Bon, c'était pas le beau gosse, comme on dit, qui dit j'en ai marre des filles faciles, tout ça. Mais ça donnait un truc, c'était extraordinaire. Là-dessus, il peut me venir un fou rire.
Parce que j'arrête pas de me faire draguer.
J'arrête pas de me faire draguer. Bon.
Et pourtant, le mec, c'est pas un Apollon, quoi.
Ouais, non, mais c'était rigolo.
Donc là, c'est second degré.
Ça peut donner un fou rire. Genre de truc, le décalage avec.
Il faut avoir le personnage en face de soi.
Ça serait. Ouais, quand t'as le personnage.
Ouais.
J'adore ça.
Bonne anecdote qui te font rigoler. Là. C'est mon neveu, il est pas sympa, mais dans sa boîte, il y a un mec qui est pas très. Il n'y a pas un QI fantastique, apparemment, et tout. Enfin, je sais pas, il se foutait de sa gueule, mon neveu. Puis il dit, ah, mais toi, à Réunion, toi, t'as pas la lumière à tous les étages. Ben, il dit, ouais, j'habite au rez-de-chaussée.
Imagine une chanson que tu pourrais chanter pour nous dérider.
Il y a de la joie.
Il y a de la joie de traîner. Ouais. Ça vas-y, tu te rappelles, hein, tu nous en entonnes.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Après,
voilà. Ouais. Christian, qu'est-ce que tu chanterais, toi, comme air joyeux pour
comme
nous dérider
joyeux. Faut que ça saigne, faut que ça saigne. Faut avaler de la barbac avant que les... merde, je ne rappelle plus. Les joyeux bouchers de la Villette.
I will not prefer to. J'aimerais mieux ne pas faire ceci, ne pas dire cela. Alors moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous n'aimeriez pas dire ou faire. Tchouk, on commence par toi.
Faire le service militaire. Ça y est, j'ai échappé. En gros, c'était ça. Ça a été une plus grosse frayeur. Non, mais c'est pas une frayeur, mais c'est une...
Et comment t'as fait pour passer entre les mailles?
Ben, il m'a fallu y aller un peu. Après, tout simplement, parce que j'avais de l'asthme, et on m'a exempté, mais ça a pas marché comme j'avais voulu, quoi. Il m'a fallu y aller un petit moment, quoi.
Ah oui?
Ouais.
Malgré ton tube de Ventoline, ça n'a pas été...
Et non, ouais. C'était pas un cas suffisant, parce qu'après, j'ai vu un Toby médecin colonel qui a été sympa et compatissant, quoi. Et puis, voilà, ouais. ça tient à un Toby qui a bien voulu, mais je n'étais pas un cas de réforme.
Quoi d'autre que tu préférais t'abstenir de faire?
Je sais rien, casser les cailloux à Cayenne, hein, par exemple.
Il y en a assez à casser en Cévennes. Ouais, hein. Ouais.
Et à ne pas dire?
À ne pas dire... À ne pas blesser les gens inutilement, quoi. Même si, des fois, ils me...
Non, on peut reprendre à son compte. Pas... C'est vrai que même si... on le fait parfois, mais déjà, intentionnellement, pas blesser les gens inutilement. Parce que faire mouche de temps en temps...
Ouais, une petite pique de temps comme à ça. Autre. Ouais. Crucifier l'autre dans son orgueil, c'est pas mal aussi, des fois. Hein. Ça fait... Alors, des choses que tu préfères t'abstenir de faire ou de dire.
De dire.
Ouais.
Bah, dire toute la vérité.
Rien que la vérité.
À la gendarmerie. Quoique j'ai toujours dit la vérité. Mais jamais toute la vérité. J'ai toujours tenu à... Ce que je dis, c'est vérifiable, c'est la vérité. Ils n'en tiennent pas toujours compte, d'ailleurs. Mais bon. Ils trichent, ils savent mentir.
J'aimerais bien arriver à continuer à moins dire attention, notamment à mes enfants, parce que j'ai été élevée par quelqu'un qui m'a toujours dit attention, et je sais que c'est hyper toxique, je m'en suis rendu compte. Au final, en tant qu'adulte, après, tu... Et donc, en fait, mon objectif, c'est de dire le moins possible attention à mes enfants.
Alors, tu le changes par « sois attentif ».
Oui, mais disons que parfois, le « attention », il est pas du tout justifié. Pas du tout, ouais. Voilà, donc... Mais c'est pareil, c'est des angoisses, ouais. Des peurs qui génèrent tout ça.
Ça, c'est
des
mécanismes personnels que tu projettes.
Ouais, ouais. Mais quand tu es conscient de ce que tu as reçu, des fois, tu peux arriver à modifier un peu la donne déjà sur toi, un petit peu sur ta propre vie, sur ta façon de percevoir les choses. Je m'en rends compte quand même. Et puis en plus, quand tu as une descendance, tu as une responsabilité. Donc, il faut, si tu connais tes travers, tu peux essayer de rectifier aussi. Quoi. C'est important.
Ouais, c'est... Ouais.
Voilà, c'est ça, moi, attention. Parce qu'en fait, compte, la vie ne devrait pas être un danger, quoi. Voilà. Sinon, on flippe, on a peur, on arrête de rire, etc. Et c'est stressant, tout ça, quoi.
C'est une chanson d'amour.
C'est marrant qu'il parle d'amour, parce que t'en parles pas beaucoup d'amour, justement. Ouais, ouais. J'ai regardé dans tes cahiers, je me suis dit, il y a beaucoup de paix. Beaucoup de désordre, beaucoup de rébellion, d'insubordination, mais tu parles jamais trop d'amour. Alors je peut-être parce que c'était par pudeur, par...
Ouais, peut-être, ouais. Ah bah, l'amour universel, on va dire, ouais. S'aimer, en liberté, solidarité, fraternité, l'amour, c'est...
Mais elle est belle, celle-là, cette chanson. J'avais passé à la prison, là, pour Noël, toi. Ouais.
À l'horizon, l'an 2000, celui de nos enfants. Pour un monde que l'on veut, idéal, trouver ça normal. De partager enfin, d'abolir les frontières. Ouvrir nos blessures, jeter l'éponge sur les parures. Ah non.
C'est un body sauvage, ouais, lui. Ouais.
Hein. Un bouillard Babylone. Mercelle unissait tous les hommes. La vibration suprême.
Je sais pas, moi, je te dis, dans mon enfance ou même à 20 ans, je sais pas, un mec qui parlait mal dans l'arabe, je lui cassais la tête. Enfin, je le cramponnais, quoi. Il faut avoir une bonne appréciation des forces en présence. Quand je suis à 1 contre 5, je ferme ma gueule. Enfin, je me ferme pas ma gueule, mais. Non, je la ferme pas d'ailleurs, parce que ça m'est arrivé, je les ai cramponnés quand même, les flics. J'étais plus nombreux, mais enfin, l'autre, j'ai fait comprendre que le commissaire, je l'avais cramponné, tu vois, putain. Ils étaient 7. Moi, je l'ai lâché, mais il a dû avoir un moment. Mais bon, après, bon, ça va.
La loi du nombre.
La loi du nombre.
Il faut faire attention. Est-ce qu'on dilue, on est à la radio. Par exemple, moi, les ondes radio m'intéressent beaucoup. Mais dans un autre cadre, qui n'a rien à voir avec celui-là. Moi, je me prends pour celui qui va terminer la théorie des champs infinis, qui a été lâchée par tous ces cons, et parce qu'ils n'y comprennent rien. Mais moi, je suis sûr que je vais la terminer. Voilà. Alors, vous direz peut-être que je suis dingue dans 2 ans de ça, mais on verra. À part ça, mes rituels, c'est rien d'autre que du tantrisme. Donc,
mais dans le concret, c'est quoi c'est...
Et dans le concret, ce sont des rituels, des pratiques, effectivement, qui sont en rapport toujours avec notre environnement. Avec le temps, avec la giration, le mouvement terrestre, stellaire donc apparent. Tout ça, c'est des gens très compétents en matière d'astronomie, en matière de médecine, etc., qui ont mis des calendriers comme ça, tantriques, voilà, et qu'on suit depuis pas si longtemps que ça fait à peine 15 siècles, mais bon, quand même. Et je me suis rendu compte de l'incidence que ça a déjà sur ma propre vie, sachant que moi je suis dans un enfer total et que bon, pour en sortir c'est pas toujours évident, et que ça c'est toujours la marche qui me permet d'en sortir finalement, et des fois d'être un peu adulte, un peu responsable, pas toujours, mais bon.
Manitou, la jungle, une contrée mystérieuse, une faune, une flore merveilleuse. Les séquoias géants sont depuis longtemps couchés. C'est maintenant l'heure pour les nocturnes de se lever. Les Indiens restent amis de la terre, la respectent et même la vénèrent. Autour du totem, ils dansent en une ronde de silence. L'eau de feu les a détruits, le cheval de fer les a mis en bouillie. Leur magie était perdue, leur civilisation déchue.
Une des formes de la liberté, c'était de rester fidèle à son enfance. Voilà. Et que c'est la chose la plus compliquée, la plus difficile, c'est de rester fidèle à son enfance. Alors je voulais savoir comment vous avez fait pour rester fidèle à votre enfance. C'est une question pas simple.
Il faut nous envoyer les sujets 48 heures à l'avance. Hein,
il faut pas... Comme demander qu'est-ce qu'on pense de l'égalité, c'est un truc comme ça, de but en blanc...
se mettre en colère.
C'est compliqué.
Ben oui. Mmh.
Ah, moi, je suis fidèle à mon enfance. J'ai toujours au moins deux, trois billes dans ma poche. Tout le temps, oui. Ouais. Comme ça, je touche ma bille de temps en temps. Mais j'ai toujours des billes sur moi.
Ouais, puis autour de chez toi aussi, c'est un royaume de l'enfance aussi. Hein.
Bah ouais,
c'est un musée d'art brut, mais c'est... c'est un musée de l'enfance aussi.
Bah, et moi, je pense qu'un adulte, enfin des mecs, par exemple, dans les chanteurs, dans les artistes, et qui ont la capacité de pouvoir remonter l'échelle du temps, quoi, sans avoir largué ton enfance. Toi, je sais pas, un mec comme Charles Trenet, toi, il reste fleur bleue, il peut naviguer. Il y avait un qui le commentait comme ça, mais c'est exactement ça, quoi. Il y a des délires de gamin, quoi. Mais en même temps, il est à 60, à 70 ans, fouf, ça veut dire que tu peux te replonger dans ton état d'esprit d'enfance. Il y en a qui diraient que ça y est, ils ont bloqué, ils ont fait une croix sur leur enfance, merde. Tout à l'heure, on parlait de construire une cabane, toi, et Jérémy. Mais je me disais, mais quand on était môme, c'est pas nos parents qui nous ont fait une cabane, on allait se les faire, quoi. Et puis, c'était systématique, hein, par exemple. Donc, pour ça, il y a des cabanes chez moi.
Ouais, t'avais pris de l'avance, toi. T'avais des travaux pratiques,
t'avais commencé très tôt. Bah ouais, quand on était gamin, avec mon frangin, il y avait des terrains vagues, toi. On était en banlieue, comme je dis, on était à 15 bornes de Paris, mais il y avait un bois, il y avait des terrains vagues, des jardins ouvriers derrière, le décor. Puis les jardins, le terrain vague, bah, c'était, ça laissait place à l'imaginaire. Hein, ça faisait la savane, ça faisait la steppe, on faisait Tarzan, les Indiens, l'arbre c'était les pirates, c'était tout quoi. Et puis j'ai toujours gardé ce truc-là.
Toi t'as gardé l'esprit de l'enfance, il suffit d'aller chez toi pour comprendre que toi t'es...
Je sais pas, toi on joue aux Indiens, bah oui, on jouait. On reste un Indien, après on s'aperçoit que c'est pas tant que ça un jeu, hein. Moi, c'est par. Si je mets des plumes sur ma bagnole, c'est aussi en hommage à ces gens-là, quoi. Hein. Parce que, par respect, là. Tiens, là en Normandie, là, ils sont gonflés quand même, tous ces enfoirés, là. Là, pour les commémorations, c'est le camp Géronimo. Mmh. Alors là, tiens, camp Géronimo, là. Parce que l'opération Ben Laden, l'exécution de Ben Laden, ça s'appelait aussi opération Géronimo. Un résistant, comme je l'ai déjà dit, mais je me répète parce que ça vaut le coup quand même. Enfin, Géronimo, voilà, c'était un homme qui s'est battu pour sa liberté, hein, et qui a fini en réserve, hein, enfermé, mais bon. Il n'a pas lâché le morceau. Hein. Mais eux, c'était des hommes libres, quoi. Toutes les sociétés, je parlais tout à l'heure de la Flibus, mais enfin, chez les Amérindiens, il y avait un sentiment, un respect de la liberté dans les codes, hein. Ils avaient des règles même assez strictes, mais enfin, la punition, c'était plutôt on te foutait pas dedans, on te foutait dehors.
On te bannissait ?
Bah ouais, t'étais banni, t'étais mis, hop, ça va. Et puis il y avait un respect, si tu voulais pas, s'il y avait une guerre ou tout ça, si tu voulais pas y aller, tu le sentais pas, personne t'obligeait à y aller, quoi. Puis dans les armées anarchistes, il y a quand même ce principe de liberté, pour en revenir à ça, où c'était des volontaires, des chefs élus, donc reconnus pour leurs compétences, enfin c'était des soldats de l'an 2 aussi, hein. Des généraux à 20 ans, parce qu'ils étaient compétents, voilà. Donc il y a une hiérarchie organique, et là on est gouverné... être dirigé, ouais, des choses que je ferais pas, par exemple, c'est de faire, en cas de guerre, d'être dans une armée. Parce que je refuserais je pourrais pas obéir à des ordres qui sont contraires à ma conscience, hein, c'est tout. Hein. Enfin, ça, il y a comme plein d'autres, hein, on n'est pas. Il y a du monde, hein, qui pense comme ça. Hein.
J'étais une enfant hyper réservée, rêveuse. J'ai gardé cette part-là d'une certaine façon, même si. Je ne montre pas toujours ça dans le cadre des ateliers radio, parce que ce n'est pas à moi de m'exprimer, mais je sais être réservée, je pense. J'ai toujours été idéaliste, voilà, c'est ça. Après, ça ne se concrétise pas forcément de façon démonstrative, quoi, je veux dire, voilà. Mais c'est mon côté rêveur, quoi. Donc, quand tu as des rêves, tu as des projections, quoi, constantes. C'est ça, j'ai vécu aussi à la campagne. Je sais ce que c'est que de jouer avec les enfants du quartier dans les champs, avec les vaches autour, etc. C'est la forêt à 200 mètres, les cabanes improvisées, effectivement, et quand même un peu de liberté par rapport à ce qu'on peut vivre, même si on est dans un environnement privilégié, mais quand même urbanisé.
Bon, Tchouk, t'as préparé ta disserte ?
Moi, j'ai des réminiscences de l'enfance dans certaines occupations que j'ai eues à Bar des Cévennes. Aller à la pêche aux écrevisses, les champignons, retrouver un milieu pas trop urbanisé. En gros, c'est ça, quoi.
C'est ça, en fait, ta fidélité à l'enfance, c'est-à-dire la campagne, la ruralité.
Retrouver, un cadre de, retrouver un cadre de vie qui ressemblait à celui que j'ai connu quand j'étais...
Parce que quand on parle de l'enfance, hein, on est d'accord, il y a cette phrase de Cavana que j'aime beaucoup, qui disait 13-14 ans, j'apprends l'homme, apprendre l'homme. Mmh. Apprendre l'homme, c'est une sacrée claque dans la gueule, justement. Et c'est justement tout ce qui fait que, une fois qu'on a appris l'homme, qu'est-ce qui résiste justement de cette espèce d'innocence, d'état d'innocence en tout cas dans lequel on était avant, et qui nous faisait voir les choses, ben, peut-être pas moins avec des jugements à l'emporte-pièce, moins de façon définitive, de façon plus émerveillée, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'était surtout ça, quoi.
Donc c'est pas mal, ouais. Enfin, c'est ça, être adulte, garder la faculté d'émerveillement. Quand même, tu t'aperçois qu'il y en a un paquet qui l'ont perdu, parce que la façon dont ils fonctionnent et dont ils essayent de faire fonctionner leurs semblables, c'est quand même grave, quoi. Moi, je sais pas, je me pose toujours le cul en regardant le ciel. Ça fait 37 ans, je m'émerveille tout le temps du paysage, hiver, été. Je me dis, putain, c'est beau, quoi. Merci. Merci Wakantanka.
Ouais, merci, mais, voilà, la gratitude.
Ouais, le grand mystère, ça veut dire, c'est pas mal. Ils sont respectueux du grand mystère. Ouais. Ils prétendent pas connaître Dieu, les Amérindiens, entre autres.
Puis c'est garder toujours le sentiment d'être petit. C'est ça, en fait, aussi, garder l'enfance. C'est-à-dire, c'est agréable, le sentiment d'être petit, parce qu'on a toujours l'impression de croître, de grandir, en fait. C'est ça, aussi.
Et ça me fait, tiens, justement, rebondir sur les Amérindiens, quoi. Ils ont ces notions de Wakantanka, mais quand ils s'adressent dans leur prière, ils parlent de Tunkachila, c'est le grand-père. Et donc, ils ramènent à l'enfance, tu vois, parce que le grand-père est plus cool que le père. Chez les judéo-chrétiens, il n'y a pas de grand-père ni de grand-mère. Ils ont un peu oublié, c'est le père, blanc, bah, attends, c'est bon. Enfin, surtout que je connais bien. Enfin, ouais. L'enfance, c'était une voisine, quand on est arrivé en Cévennes, quoi, là. Une voisine qui nous imaginait venant d'ailleurs comme des citadins. Mais c'est vrai qu'elle me demandait, ouais, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Pourquoi vous êtes venu et tout? Ben, je lui ai dit, ouais, parce qu'ils nous ont bétonné nos terrains de jeu, quoi. Mmh. Ouais, c'était ma réponse, quoi. Elle dit, oui, toute la banlieue, elle est bétonnée, quoi. J'ai dit, fallait qu'on retrouve de la nature, comme tu dis, une ambiance de l'enfance, quoi, où on avait accroché.
J'ai pas énormément voyagé, mais j'ai un bon souvenir du Portugal. Ça me dirait bien peut-être d'y revenir, un voyage au Portugal, par exemple. Je vois pas...
T'es allé où, au Portugal?
Dans le sud, l'Alentejo.
Dans le pays des Chênes-Liège?
Voilà, exactement. Ouais. Vila Verde de Ficalho, exactement, tu veux savoir le nom du village. J'espère que je prononce
ça. À beira do teu destino, pousei o meu coração. Ai, à beira do teu destino, pousei o meu coração. Perdeste pelo caminho a minha solidão. Perdeste pelo caminho, ai, a minha solidão. E nasce uma rosa negra junto ao muro do Calvário. Abre quando a noite chega ao meu peito solitário.
Vas-y, parle du Portugal, parce que moi je connais bien ce pays, j'adore ce pays, et parle-en moi.
Mais c'est-à-dire, j'y suis allé juste après la révolution des œillets. Alors c'était un petit patelin, je sais pas, il y avait de la fraîcheur, de la joie, une vachement de communication, un esprit de... de liberté, puisqu'on parlait de liberté, on sentait que les gens sortaient d'une espèce de chape de plomb, puis c'était très convivial, très fraternel. J'ai rarement vu des ambiances comme ça dans ma vie. Tout le monde t'invitait à boire, à manger, il faut le vivre, quoi. C'était extrêmement sympathique, chaleureux et...
Le Portugal est resté encore comme ça.
Oui, c'est possible. Ouais. Moi, je parle que de ma courte expérience et à une période qui était bien, puisque c'était... ça devait être en 77-78.
D'accord.
Il n'y avait qu'une route goudronnée dans le bled. Après, tout le monde m'avait roulé à mobilette presque. Il n'y avait presque pas de bagnole, que des chemins. C'était une vie simple, mais on ne sentait pas une misère absolue non plus. Une vie simple, chaleureuse. je sais pas, on aurait dit que les seules joies des gens, c'était de boire un coup le dimanche, mais qu'ils étaient contents avec ça. Et ça se ressentait au quotidien, et ça, il faut le vivre. Pour... Tous les vieux étaient habillés de la même façon, et le dimanche, ils se réunissaient tous, et ils prenaient une bouteille à trois, et chacun payait sa bouteille, et ça pouvait aller à un nombre assez conséquent de bouteilles, ça picolait dur, quoi. Mais c'était... je trouvais ça vachement bien.
En écoutant Tchouk, moi, c'est la même impression, c'est les mêmes impressions en Espagne, quoi. Et encore dans les années en 61, quoi, c'était sous Franco. Mais le sens de la convivialité des gens, ils étaient sous une dictature. Mais c'était le sens de la fête, de l'accueil, de l'hospitalité, c'était complètement hallucinant. J'avais fait Paris, j'avais 14 ans. J'avais fait Paris-Perpignan, pas un mot avec les compagnons de voyage dans le compartiment et tout. Putain, Perpignan, ça déboule de partout, des Espagnols qui rentraient en Espagne. C'est la première fois que j'ai vu une femme donner le sein à son bébé. Et puis là, ça sortait, le saucisson, le pinard, ça partageait un truc. Et arrivé là-bas, déjà dans le train, j'étais invité, le petit français... C'était fou, quoi. Moi, ça m'avait vachement impressionné, leur sens de la fête en vivant sous une dictature. Hein. Parce que c'était craignos aussi, hein, garde civile et tout, ça y allait, mais c'était des gens fantastiques. Quoi. Et après, j'y suis retourné en Aragon, et pareil, il y avait quand même un sens de la fête et de l'hospitalité, du partage. Les gens, ils tutoient facilement en Espagne, clac. Il y a un contact... alors qu'en France, je dis, mais merde, ils ont un dictateur dans la tronche. Hein. Tu repassais la frontière, retour en France, j'étais sur le cul, quoi. Les gens bien policés, pas besoin d'avoir un flic à chaque carrefour. Enfin, maintenant, c'est revenu un peu, mais à l'époque, alors qu'en Espagne...
14 ans, t'avais
bah, 61, si, c'est ça. Ouais. Hein.
T'étais avec qui? T'étais tout seul, non?
Ouais, tout seul. Il m'avait trouvé, enfin bon, c'était par la boîte et tout, une pension de famille, c'est ça. D'accord. Revenait pas très cher. Puis comme j'avais l'espagnol en seconde langue, ça revenait.
C'était donné.
Pension de famille à Valence, toi. Et puis en plus, sympa avec des adultes, quoi. C'était une dame qui louait des chambres, qui faisait à manger et tout. J'étais. La liberté, j'étais pour un ado, c'était pendant les fêtes de Valence, et puis en plus c'est une ville magnifique, je m'étais bien éclaté. Puis il fallait que je retourne, j'étais invité, j'avais 6 mois de garantie, aussi bien chez des gens de la haute, des gens dans les villages, mais c'était fantastique cet esprit. Ah, tiens, en parlant de Portugal, c'est hier, il y avait une mission sur la dernière guerre, c'est un mec que je connaissais pas, c'est Sendo Suarez Mendes, qui était ambassadeur du Portugal en 40, là, qui a eu la débâcle. Le mec, mais c'est un halluciné, il était ambassadeur du Portugal, il a fait nuit et jour, il faisait des tampons, des visas pour des juifs, des réfugiés et tout ça, il a fait passer 30 000 visas. Il avait... recruter sa femme, les enfants, et il faisait des tampons. Après, il s'est fait virer par Salazar, quoi. Enfin, il a eu le temps de... J'ai dit, tiens, c'est un mec, un Portugais, dont ils peuvent être fiers, quoi.
Donc, ambassadeur du Portugal à Paris, c'est ça?
Ouais, en France, en 40. Hein. Suarez Mendes, s'appelle, qui est mort dans la misère au Portugal.
Pas de destination particulière. Enfin, disons qu'il y en a beaucoup. Moi, ce que j'aime bien dans le voyage, c'est la rencontre. Alors, au final, il n'y a pas toujours besoin de voyager pour rencontrer. Mais c'est vrai que quand tu es étranger dans un pays et dans un coin qui n'est pas trop touristique, tu es un peu identifié. Du coup, les gens aiment bien aussi t'accueillir. C'est sûrement pas effectivement réciproque.
Il y a les voyageurs et les touristes. Ouais. De toute façon, c'est vite vu. Hein.
Moi, j'ai des bons moments de partage, notamment avec les femmes à qui je demandais de m'apprendre à cuisiner leurs plats locaux, par exemple. Alors, elles m'invitaient à tenir le restaurant, notamment par exemple au Sénégal oriental. Donc, c'est très, très peu touristique hein, quand même. Donc, le restaurant, c'est une pièce sous une tôle comme ça, avec des bancs autour et un feu et un chaudron. Et à midi, les gens débarquent, ils sont assis presque à quatre pattes et on leur tend une assiette et on mange tous ensemble. C'est vachement sympa. Et quand tu dis à la restauratrice que tu veux apprendre à cuisiner, cuisiner son plat, elle est super contente, et elle part dans un fou rire, justement, parce que c'est très joyeux. Ça rigole tout le temps, c'est sympa, c'est ce que j'aime bien dans le voyage. C'est la rencontre, dans le quotidien, quoi.
Que demandent les peuples, qu'on leur foute la paix, on se démerdera entre nous.
Et la nourriture, je trouve que c'est vraiment un bon vecteur de rencontre. C'est-à-dire que quand tu sais apprécier la nourriture dans un pays où tu vas te promener, les gens sont super flattés. Enfin, c'est vrai, c'est les gens qui pinaillent tout le temps en disant « j'aime pas ça » ou « j'ai pas l'habitude ». Bon, si tu... déjà, tu marques une distance, c'est un peu pris pour du snobisme. Du coup, c'est intéressant d'accepter la nourriture et quand en plus, d'abord, tu partages le repas avec des gens. En plus, ils apprécient le fait que tu aimes leur coutume. Enfin, c'est à travers la nourriture, je trouve que c'est vraiment une belle rencontre.
En tout cas, sachez qu'on peut toujours manger à 7-8 euros à Lisbonne encore aujourd'hui.
Ah ouais.
Voilà, pour Tchouk, dans les quartiers d'Alfama ou le Bairro Alto, par exemple, tu as encore des restos où tu as ton morceau de morue avec tes aubergines et à 7 euros. Quoi.
Ah, c'est beau.
Donc ça reste un pays vraiment... Puis bon, ce qui est magnifique aussi dans Lisbonne, je ne sais pas si tu avais remarqué, ou en tout cas dans les villes, c'est la présence des culs de jade, des goitreux, des difformités. Moi, c'est un truc qui me rassure, en fait, de voir que l'humanité est... même un goitreux à sa place, en fait. Même un unijambiste à sa place. Et t'as encore des gens à Lisbonne aujourd'hui qui distribuent des tickets de loterie, tu sais, comme...
En Espagne aussi. Marchand de cigarettes.
C'est tellement rassurant.
Ça plairait à Jodorowsky, ça.
De quoi
Jodo.
Ouais.
Dans tous ses films, je veux dire, lui, il en emploie des...
L'expression qui me gonfle particulièrement, c'est chacun sa merde. Jeanne, tu as l'air de dire, mais après toi, ta merde, garde-toi là, et voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y en a bien assez qui disent ça.
C'est pour la mutualisation de la gestion des merdes.
Non, mais... ouais, un peu pas la mutualisation, mais pas complètement contre cet individualisme, pas pour cet individu, c'est même pas de l'individualisme, c'est de l'art de dire moi je m'en sors et toi ça veut dire ça, et toi si t'as ton problème c'est bien fait pour ta gueule, ça veut presque dire ça.
En tant que boucheur de trous de mémoire, comme on t'a surnommé dans la petite équipe là, tout ce qui est justement oubli, amnésie, a tendance vraiment toi effectivement
à m'énerver.
Une expression que peut-être je ne comprends pas, c'est quand tu donnes un argumentaire à quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord et que la conclusion c'est autant pour moi. Les gens qui me répondent autant pour moi, ça me gonfle. Voilà. Je ne peux pas l'expliquer. Je trouve que derrière il n'y a pas de discussion, autant pour moi. Bon voilà, on passe à autre chose. Je trouve ça triste, quoi. Surtout quand...
Non, elle a raison. dans ce sens-là, je le voyais autant pour moi, c'est une forme d'excuse, tu vois.
Non, mais c'est là, certainement... Et je trouve que c'est...
Alors, en fait,
peut-être que étymologiquement, c'est... Je l'entends mal, moi, l'excuse.
Ouais,
pour moi, c'est pas... C'est un rond de jambe, quoi. Voilà. Okay. Ouais. Je trouve ça triste.
Ouais. Autant pour moi.
Dans le cadre de la poursuite des
voix d'autrement, l'association Quoi de Neuf invite ses usagers à participer de vive voix à l'enregistrement des 6 prochaines émissions. Une plage radio sera ouverte d'octobre à février, 2 lundis par mois, de 14h à 16h. Celles et ceux qui veulent rejoindre l'équipe des reporters sans œillères seront chaleureusement accueillis.
C'est bon, je crois qu'on a terminé. Pour Aurélien, c'est le moment de nous couper. Merci.